Cette guerre n'est pas une guerre ordinaire. C'est la guerre du peuple russe tout entier.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Cette semaine, on parle de la Seconde Guerre mondiale telle qu'elle a été vécue et racontée du côté russe. Quelle est la vraie histoire de la Grande Guerre patriotique de Staline? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h50, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h sur France Inter. Moscou, le 9 mai 2025.
Défilé grandiose, place rouge, ce 9 mai. Mais cette année, l'anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent toujours les Russes, a tout d'une démonstration de force sous la houlette d'un dirigeant, Vladimir Poutine, qui cite l'histoire pour mieux vanter la grandeur de la Russie en guerre contre l'Occident et en particulier l'Ukraine.
La Russie a été et restera une barrière infranchissable contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société et le peuple soutiennent les partisans à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination.
Dans le récit officiel sur la Grande Guerre patriotique, élaboré depuis les années 2000 au Kremlin, le seul aujourd'hui autorisé et diffusé dans les manuels scolaires en Russie, de grands pans de l'histoire sont occultés. Le pacte germano-soviétique, les erreurs stratégiques de Staline, les pertes militaires ou civiles par dizaines de millions, les citoyens condamnés à mort pendant la guerre ou déportés au goulag, le rôle des alliés, la violence de la sortie de guerre. Depuis les années 2000 et surtout depuis 2020, le mythe de la Grande Guerre patriotique est si essentiel au pouvoir russe que toute tentative de mise en question historique est interdite par la Constitution. Loin de nous l'idée, bien sûr, de vouloir minimiser les sacrifices ni le rôle essentiel du peuple soviétique, sans lequel le nazisme n'aurait pu être vaincu et qui a parfois été négligé. Mais nous allons essayer cette semaine de rétablir dans ses grandes lignes la vérité historique sur la Seconde Guerre mondiale, telle qu'elle a été vécue par les soviétiques, avec vous Nicolas Werth. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire russe, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes aussi président de Mémorial France, la branche française de Mémorial International, une ONG qui, depuis sa création, s'est donnée pour but, un vrai combat pour la vérité, de perpétuer la mémoire des répressions de masse de l'Union soviétique.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. Les divisions finlandaises et roumaines marchent aux côtés des armées du Reich. L'Italie, la Hongrie, puis la Slovaquie se sont jointes à la croisade anti-bolchevique.
Le 22 juin 1941, à l'aube, Hitler déclenche le plan Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique. À la grande stupeur des gardes frontières, puisque leur pays et l'Allemagne, depuis 2 ans, sont liés par un accord de non-agression, le pacte germano-soviétique. À l'image de l'invasion de la France l'année précédente, l'attaque de la Wehrmacht est foudroyante. Elle vise à s'emparer de Leningrad au nord, de Moscou au centre, de l'Ukraine et du Caucase au sud. Dans la matinée du 22 juin, des appels affolés arrivent du front. « Mes hommes se battent comme des héros, mais que peut-on faire contre des tanks et des avions ?» demande un officier à son supérieur. Les nazis avancent insolemment, marchant droit devant eux avec des airs de conquérants. À un général affolé qui l'appelle au téléphone, le maréchal Timoshenko répond « Le camarade Staline a interdit de faire donner l'artillerie contre les Allemands. » Pendant des heures, en effet, Staline, tétanisé ou incrédule, ne réagit pas, s'obstinant à ne pas admettre la réalité. Cela fait des mois pourtant que ses services de renseignement et Churchill lui-même l'ont alerté d'une possible attaque allemande. Il faudra attendre 13 jours pour qu'il adresse un vibrant message à la nation. En attendant, la gestion de la crise est laissée à Molotov, son ministre des Affaires étrangères, qui déclare à la radio « L'ennemi sera vaincu, nous aurons la victoire ». La victoire viendra en effet, mais avant que le drapeau rouge ne flotte sur le Reichstag à Berlin, le prix humain sera dantesque. Aucun pays dans la Seconde Guerre mondiale n'a perdu autant de population que l'Union soviétique.
Staline,
Un extrait du chant Zviatchenaya Voïna qui a été composé en juin 41 pour appeler la nation à la guerre sainte. Lève-toi, peuple immense, lève-toi pour un combat mortel avec la sombre force fasciste, avec la horde maudite. Nicolas Werth, comment expliquer cette invasion allemande alors que Hitler et Staline étaient liés par un pacte de non-agression signé le 23 août 1939 ?
Quand on connaît les théories développées par Hitler, on ne peut pas être étonné puisque dès le début de la prise du pouvoir et même avant, Hitler avait développé l'idée d'un espace vital à l'Est à conquérir et n'avait jamais fait mystère de cette volonté de justement gagner cet espace vital pour le déploiement du peuple allemand vers l'Est.
Et Staline, lui, était plus confiant ?
L'accord qui a été signé le 23 août 1939 arrangeait finalement les deux parties pour un certain temps. Pour Staline en particulier, c'était une manière de gagner du temps pour assurer mieux la préparation d'une armée rouge qu'il avait lui-même décimée avec les grandes purges de 1937-38 au cours desquelles un tiers des officiers supérieurs avaient été révoqués, arrêtés et pour un grand nombre d'entre eux exécutés.
Ce pacte de non-agression, donc le pacte germano-soviétique, est aussi un pacte avec un protocole secret qui vise à se partager la Pologne et qui permet à l'Union soviétique de s'emparer des pays baltes dès l'automne 1939 et d'attaquer aussi la Finlande.
C'est par définition un protocole secret, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les soviétiques n'ont pas refusé d'authentifier ce protocole secret par lequel, évidemment, les deux parties s'octroyaient des zones d'influence et l'URSS gagnait comme zone d'influence les pays baltes, enfin dans un premier temps pas la Lituanie, mais ensuite ça va lui être accordé par l'Allemagne. Et évidemment le partage de la Pologne et 17 jours après l'invasion par la Wehrmacht de la Pologne, c'est au tour de l'armée rouge le 17 septembre d'envahir la Pologne et donc de se partager les dépouilles de cet État que Staline avait qualifié d'avorton du traité de Versailles.
Dans quel état est l'Union soviétique au moment de l'invasion allemande ?
C'est une population en grande majorité, au fond, mécontente du régime. Mais ce mécontentement vis-à-vis du régime ne va pas peser in fine si lourd par rapport aux atrocités, à cette guerre d'extermination menée par le régime nazi contre les sous-hommes soviétiques et les sous-hommes slaves en général.
Oui, puisque l'invasion d'Hitler est militaire, mais elle est aussi une guerre de civilisation. Il veut soumettre ce pays en esclavage, exterminer les Juifs sur son chemin.
Oui, absolument. Cette guerre est d'une nature tout à fait différente de la guerre à l'Ouest. Il s'agit en effet de conquérir un espace vital, d'éliminer le bolchevisme au prix de pertes humaines pour ces sous-hommes slaves et pour des juifs, évidemment, aussi absolument incomparable avec ce qui s'est passé en Occident. Il suffit de voir par exemple le traitement des prisonniers de guerre soviétiques. Plus de 2 millions de soldats soviétiques faits prisonniers dans les premiers 6 mois de la guerre vont mourir très rapidement.
Merci Nicolas Werth. Nous verrons dans le prochain épisode l'avancée allemande en URSS qui semble irrépressible et le terrible siège de Leningrad.